France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On attribue à l'ancien résident général du Maroc, le maréchal Lyautey, ou peut-être à son successeur, cette formule « Au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir ». Formule reprise avec un peu de malice, près d'un siècle plus tard par un certain François Hollande, à l'occasion d'une visite officielle à Casablanca, visite précédée par quelques ondées, comme de coutume sous ce quinquennat. Au-delà de la plaisanterie, la formule de Lyautey relève bel et bien d'une sagesse millénaire, car l'abondance ou la rareté de la pluie a toujours eu des conséquences très concrètes sur le devenir des sociétés humaines, en particulier dans les régions arides. Les sécheresses peuvent mettre en péril des récoltes ponctuellement, mais surtout des ordres sociaux et politiques. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que toutes les sociétés aient consacré à toutes les époques des rituels à l'eau et à la pluie, pour s'attirer les bonnes grâces des divinités associées à cet élément, du dieu Tchak des Mayas au Mexique, au dieu Baal du Moyen-Orient. On note au passage que dans la grande histoire des migrations divines, une sécheresse ou une précipitation est nécessairement associée à la victoire d'un dieu sur un autre, selon des modalités mystérieuses. Dans cette émission de Jacqueline Kellen, vous allez entendre plusieurs grandes voix d'intellectuels ou d'écrivains ou de journalistes dresser un large panorama des rituels de la pluie dans les sociétés humaines, du Mexique ancien avec Jacques Soustelle, à l'Inde avec Guy Delery. La matinée des autres, les rituels de la pluie, c'est une émission du 1er octobre 1985.
Sous-là. Benya. 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 Sous-là. Benya. Sous-là. Benya. Ewa. Beba. Belalo. Bene, betano, mutoba, samba, lombi, de bois.
Je possède une pierre qui vient de Bolivie, qui m'a été donnée par un Indien. Et cette pierre, qui est une sorte de basalte, est sculptée sur les quatre faces. C'est un bloc. Sur une des faces, il y a un graphisme qui représente les moutons, les troupeaux. Donc lorsqu'on tourne cette face vers le soleil, on peut obtenir des troupeaux. Lorsque on tourne la face vers le graphisme qui est orienté vers la terre, on obtient des champs. Lorsque on tourne la face qui est orientée vers le graphisme du maïs, on obtient une bonne récolte. Il y a une autre face qui est orientée vers un graphisme représentant l'argent avec des petites pièces qui sont dessinées. Enfin, le centre de la pierre est strié de petites lignes et ça représente la pluie. Lorsqu'on tourne cette pierre en priant vers le soleil, c'est pour demander que la pluie tombe.
La matinée des autres.
Qui veut savoir ce qu'il advient des pluies en marche sur la terre, s'en viennent vivre sur mon toit, parmi les signes et présages.
Les rituels de la pluie, une émission de Jacqueline Kellen. Avec Jacques Soustelle de l'École pratique des hautes études, Françoise Grund de la Maison des cultures du monde, Jacqueline Defels, professeure à l'INALCO, Guy Delory, écrivain. Slimane Zeguidour, journaliste, historien.
Le dieu de la pluie que l'on invoque, on le trouve pratiquement partout au Mexique. On le trouve dans le Oaxaca, n'est-ce pas ? À Montalban, il s'appelait à cet endroit-là Corrizo. Et puis on le trouve chez les Mayas sous le nom de Tchac. Le pays lui-même se peut subdiviser en deux catégories de climat et de terrain, c'est les terres chaudes et les terres froides. Dans les terres froides, c'est-à-dire le haut plateau, 2200-2800 mètres, très sec, semi-aride, semi-désertique. Alors ça, c'est la civilisation de Teotihuacan, c'est la civilisation aztèque elle-même, la civilisation toltèque, sont des gens à qui il manquait de l'eau toujours. Et puis en revanche, il y a les terres chaudes, c'est les pays mayas, et surtout, pas tellement le Yucatan qui est assez sec, n'est-ce pas ? Mais le pays maya ancien, on peut dire le cœur du pays maya, la vallée de l'Usumacinta et le nord de ce qui est aujourd'hui le Guatemala, mais enfin qui fait partie du Mexique culturellement parlant. Alors là, c'est le pays où il tombe 3 ou 4 mètres d'eau par an. Ouais, je le sais, j'y ai assez vécu pour avoir quelquefois regretté cette abondance de pluie. Alors, il y a donc des grandes divinités de la pluie dans les deux cas, mais dans certains cas, on les invoque pour avoir la pluie, dans d'autres cas, on les invoque pour ne pas l'avoir. Alors, parlons du plateau central, si vous voulez. Là, c'est Tlaloc, le grand dieu de la pluie, qui était depuis au moins le début de notre ère, peut-être même auparavant, le grand dieu de ces populations paysannes du plateau central, et qui a été adopté par les Aztèques, lesquels, par génie politique en quelque sorte, ont juxtaposé Tlaloc avec leur grand dieu à eux, qui était Huitzilopochtli, le soleil. De sorte que le grand temple de Mexico, le Templo Mayor, comme nous l'appelons, avait deux sanctuaires au sommet des pyramides. Le sanctuaire de Tlaloc, que l'on a dégagé il n'y a pas longtemps, avec des grenouilles notamment, qui sont évidemment symboliques de la pluie. Et le sanctuaire de Huitzilopochtli, représentant le soleil, même le soleil, je dirais, agressif, le guerrier, dont l'arme est un Xucoatl, c'est-à-dire un serpent de turquoise, qui brûle. C'est une sorte de rayon de la mort, si vous voulez. Alors on avait à Mexico toute une série de fêtes qui avaient pour objet d'appeler la pluie, et de l'appeler notamment à certains moments. Quand on a semé le maïs, il faut absolument qu'il pleuve, sans quoi la graine est perdue, la semence est perdue. Alors, il y avait des cérémonies en l'honneur de Tlaloc et en l'honneur d'une série de petits dieux qu'on appelait les Tlaloc, n'est-ce pas, les Tlaloqués, qui étaient censés être des petits nains séjournant au sommet des montagnes. Parce que quand la saison sèche se termine, vers le mois de avril-mai, les nuages commencent à s'accumuler au sommet des montagnes et c'est de là que vient la pluie. Et que viennent aussi les orages. Alors on pensait que ces Tlaloqués, qui étaient des petits serviteurs, en somme, du grand Tlaloc, et de sa femme, la Tchalchutlicue, celle qui a une jupe de pierre verte, étaient chargés de lancer l'éclair et aussi la pluie, n'est-ce pas ? Alors cette pluie, d'ailleurs, ils pouvaient la puiser dans des jarres. Certaines de ces jarres contenaient la pluie fécondante, la bonne pluie qui fait pousser le maïs, et puis il y en avait qui provoquaient, au contraire, le cataclysme, l'inondation, la destruction des récoltes, et puis il y avait l'éclair symbolisé généralement par un serpent. On représente assez souvent Tlaloc tenant dans une main un serpent qui est l'éclair.
C'était le printemps, frère de l'été. Vous n'auriez pas su distinguer le blé du gazon, ni l'amitié de l'amour. Le ciel était lointain et montait jusqu'au soleil. Les haleines des hommes ne ternissaient plus l'air et ne s'y continuaient pas comme une rivière boueuse dans un fleuve transparent. Les trains seuls à l'horizon fumaient. C'étaient les pluies fines tombant de l'azur, comme si midi avait sa rosée. C'était un petit ruisseau, amoureux de son eau, et qui courait après elle. Jean Giraudoux.
Il y avait un mois qu'on appelait Etzalcoatlistli, ce qui veut dire le mois où l'on consomme de l'Etzalli. Et l'Etzalli, c'est une sorte de brouet noir, comme diraient les Spartiates, à base de haricots et de maïs. Et alors les prêtres de Tlaloc, pendant ce mois-là, se nourrissaient exclusivement de ça. Ils allaient au bord de la grande lagune, n'est-ce pas? Et tout autour de la lagune, il y avait des petits sanctuaires que l'on appelait les maisons de brume. Et là, ils descendaient dans l'eau et ils imitaient les oiseaux aquatiques. Alors certains imitaient les canards, d'autres imitaient les grues, ils poussaient des cris, ils s'ébattaient dans l'eau, etc. Et ils rapportaient des roseaux et ils couchaient dans le temple sur ces roseaux. Et donc ils s'infligeaient, si vous voulez, quelques macérations, comme on dit. Et puis alors, si par hasard quelqu'un se noyait, à ce moment-là, alors on l'emmenait dans une de ces maisons de brume, en jouant de la flûte, et on célébrait tout un rite en son honneur, parce que dans la lagune était censé vivre un monstre qu'on appelait le Ahuitzotl. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui encore, dans le patois populaire au Mexique, on dit de quelqu'un qui est vraiment désagréable, on dit « es un verdadero Ahuitzotl ». Ahuitzotl, n'est-ce pas? Et c'était aussi le nom d'un empereur, d'ailleurs. Alors, ce monstre aquatique était censé attirer les gens au fond de la lagune et il les laissait remonter à la surface après leur avoir dévoré les yeux et les ongles. Alors, quand on trouvait un cadavre comme ça, on l'emmenait dans une maison de brume et on célébrait son départ pour le paradis du dieu de la pluie, le Tlaloc, qui était le protecteur de tout ce qui concernait l'eau. Alors le Tchac, qui a à peu près la même physionomie que le Tlaloc de Mexico, en ce sens qu'il a de grandes dents, n'est-ce pas, qui sortent de la bouche, mais il a un nez en forme de trompe, ce qui a fait croire à certains qu'il y avait des éléphants, n'est-ce pas, chez les Mayas. Évidemment, ils n'en avaient pas, les Mayas. Remarquez que ça aurait été fort utile pour eux, mais ils n'avaient pas plus d'éléphants que d'ailleurs d'autres animaux de ce genre. Mais sur les ruines d'Uxmal, par exemple, vous voyez, n'est-ce pas, ce masque qui revient constamment avec les grandes dents et avec le nez en forme de trompe, parce que on invoquait le Tchac pour avoir la pluie. Et encore aujourd'hui, les paysans mayas du Yucatan, qui, comme tous les paysans, sont avant tout très soucieux de leur récolte, et on ne saurait leur en faire reproche, n'est-ce pas? Pour être du bon côté, ils invoquent à la fois la Vierge de Guadalupe et le Tchac. Alors, pour invoquer le Tchac, ils vont dans leur champ et ils célèbrent une petite cérémonie en brûlant du copal, c'est-à-dire de l'encens, n'est-ce pas, de la gomme d'un arbre odoriférant. Et il y a des petits garçons qui sont là et qui poussent des coassements, n'est-ce pas, de façon à représenter les grenouilles, les fameuses grenouilles qui appellent la pluie, n'est-ce pas. La grenouille, ouo, en maya, c'était même le nom d'un mois. Le deuxième mois de l'année, n'est-ce pas, s'appelait grenouille. Eh bien, donc, c'est dans les pays secs. Alors, dans les pays humides, au contraire, on n'a qu'une idée, c'est qu'il ne pleuve pas trop, vous comprenez. Alors, moi, j'ai vécu chez les Lacandones, qui sont des mayas, mais de la vallée de l'Usumacinta, où il pleut énormément. Alors, eux, ils ont un dieu qui s'appelle, non pas Tchac, d'ailleurs, mais Mentzabok, ce qui veut dire celui de la brume noire, n'est-ce pas? Et on l'invoque en brûlant de l'encens aussi, mais surtout en lui demandant de ne pas y aller trop fort, en quelque sorte, parce que de l'eau, il y en a énormément, il y a des lacs, il y a des rivières, et il pleut très souvent, parce que, en fait, la saison des pluies, naturellement, est très abondante, et la saison sèche, il pleut tout de même un jour sur deux ou sur trois. Alors là, on célèbre donc des rites en offrant à ce Mensabok de l'encens et aussi une bouillie de maïs, n'est-ce pas, que l'on appelle du kayem, et qu'on présente au bout d'une sorte de cuillère. Enfin, il y a tout un rituel qui est extrêmement intéressant.
Il pleuvait. Il tombait une de ces pluies menues qui mouillent l'esprit autant que les habits. Non pas une de ces bonnes pluies d'averse, s'abattant en cascade et jetant sous les portes cochères les passants essoufflés, mais une de ces pluies si fines qu'on ne sent point les gouttes. Une de ces pluies humides qui déposent incessamment sur vous d'imperceptibles gouttelettes et couvrent bientôt les habits d'une mousse d'eau glacée et pénétrante. Maupassant.
Pour en revenir au Mexique central, donc les montagnes sont très liées à l'idée de la pluie. Ce qui fait que on célébrait tous les ans une des 18 grandes fêtes de l'année, c'était la fête des montagnes, n'est-ce pas, le Tepe Iluitl. Et qui avait comme rite principal que dans les familles, chacun, avec de la pâte de maïs, fabriquait des petites montagnes. On leur mettait des yeux et une bouche faite de graines de pastèque. Et puis, on leur offrait de l'encens, etc. Et puis, on les mangeait, n'est-ce pas? C'était une sorte de communion, voyez-vous, pour appeler la pluie. Je répète encore aujourd'hui, la période de soudure là, entre la saison sèche et la saison des pluies est un moment d'angoisse pour les Indiens. Partout où il n'y a pas d'irrigation, c'est-à-dire même dans beaucoup d'endroits, parce qu'alors là, on ne peut compter que sur l'irrigation naturelle, donc sur la pluie. Et alors on célèbre une quantité de rites à la fois catholiques et païens, impartialement.
Faire la pluie et le beau temps.
Parler de la pluie et du beau temps.
Ne pas être tombé de la dernière pluie.
J'ai rencontré en Patagonie des Indiens. Des Indiens qui sont hélas en voie de disparition, qu'on appelle les Indiens Mapuche, et qui ont exécuté le rite du Camarucó. Le rite du Camarucó, c'est aussi un rite un peu syncrétique du christianisme et de l'animisme, qui est un rite de fertilité. Et dans ce rite, on assiste non pas à des sacrifices d'animaux, mais à une sorte d'automutilation. Les instruments de musique se déclenchent et sont aussi assez dissonants. Les Indiens montent dans la montagne en procession et poussent des sortes de hurlements. Arrivés à un endroit spécial, ils demandent la pluie. La Patagonie est très sèche. Hein. Et ils se mettent à danser sur leurs genoux, jusqu'à ce que leurs vêtements, leurs pantalons se déchirent et jusqu'à ce que la peau de leurs genoux s'en aille en lambeaux. Ils terminent la danse dans une sorte de transe et les genoux en sang. Et en général, ils m'ont dit que après cette cérémonie, après quelques jours, l'orage éclatait et la pluie tombait.
Thank you.
Celui qui est sous le ciel, comment peut-il craindre la pluie ? Proverbe Thaï.
La Thaïlande se trouve dans l'Asie des moussons et les saisons sont non pas formelles mais bien dessinées en ce sens que il pleut au moment de la saison des pluies. Il y a trois saisons, deux qui sont sèches mais qui sont considérées comme une fraîche où le thermomètre descend quelquefois à 18 degrés, quelquefois un peu en dessous, puis une saison très chaude qui est vers février, mars, avril, et qui est d'ailleurs la saison des vacances universitaires, et vers le mois de mai, on attend la pluie. Et la pluie, c'est très important parce que c'est elle qui va fertiliser le sol en temps voulu. Donc, si la pluie ne tombe pas comme on le voudrait, et ce sont les paysans, bien sûr, qui en ont le plus besoin, eh bien, si la pluie ne tombe pas à ce moment-là, dans les villages, on fait des prières et des fêtes pour la pluie et tous les gens du village y contribuent. La fête la plus connue dans les villages actuellement, c'est la fête que l'on appelle Hainangmeo, que je pourrais traduire par procession ou cortège de Madame la chatte. Alors, le premier point, c'est de trouver une chatte. On prend une chatte, on va vite attraper une chatte. On la met dans un panier, on lui fabrique une sorte de couvercle, on l'attache et on traverse le panier d'une branche de bambou et on porte le panier en fléau. Et ensuite, ceux qui ont la chatte se promènent de maison en maison et soit rituellement du nord au sud, soit plus généralement maintenant, puisque les villages s'étalent sur une seule rue, de la première partie du village jusqu'au bout du village. Et les gens viennent s'adjoindre à eux pour participer à la fête et s'arrêtent devant les maisons. Et devant ces maisons, ils chantent « Oh, Madame la chatte, venez, donnez-nous la pluie, Madame la chatte, donnez-nous la pluie. Et donnez-nous aussi l'argent, donnez-nous du riz. » Et pendant qu'ils sont en train de chanter, avec aussi accompagnés de petits instruments de claquettes de bois, de tambours s'ils en ont, ceux qui habitent la maison, pour pouvoir participer à la fête, s'ils ne viennent pas dans la procession, donnent de la monnaie ou de la nourriture, plus spécialement du riz puisque c'est un symbole. Et à la fin de la procession, à la fin de la fête, tout le monde se réunira pour un grand repas, très drôle, très amusant. Et bien entendu, comme on jette de l'eau sur la chatte et qu'une chatte n'aime pas l'eau, elle se débat dans son panier. Et bien souvent, son panier crève. Et alors, elle s'enfuit. Alors là, c'est le grand amusement parce que tout le monde se précipite pour essayer de rattraper la chatte. En riant, en criant, en chantant. Et on rattrape la chatte et on la recoince dans son panier et on continue en chantant. Hey, Madame la chatte, nous voulons de la pluie, nous voulons de la pluie. Évidemment, la mélodie n'est pas toujours la même selon les villages et les paroles ne sont pas toujours les mêmes selon les villages. Mais c'est comme les contes, ils sont divers, mais ils se résument tous à « Eh, Madame la chatte, donnez-nous la pluie qui va fertiliser notre sol. »
J'écris, la pluie tombe, les tuiles sonnent, mille petites rigoles bavardent, l'air est lavé et comme filtré, les nuées ressemblent à des haillons magnifiques. Il faut apprendre à saisir ces beautés-là. Alain.
Madame la chatte, c'est peut-être le grand rite, si je puis dire. Mais il y en a un autre que l'on appelle Panmeg, et qui alors est très rare de nos jours, qui était beaucoup plus ancien. Et Panmeg, ça veut dire modeler un nuage. Mais ça n'a rien à voir avec un nuage, en fait. On dit modeler un nuage parce qu'on voudrait que le nuage éclate et donne la pluie. Mais en fait, on fait comme une petite poterie qui représente un couple. Et ce couple peut avoir diverses grandeurs, et quand on fabrique ce couple avec les mains, on fait des incantations pour demander la pluie également. Et au moment de cette pré-période encore très sèche et où les pluies ne sont pas encore tombées, on trouve dans les champs des toutes petites représentations de ce couple ou bien des beaucoup plus grandes représentations de ce couple. Et une vieille femme à qui on avait demandé « Mais que récitez-vous au moment où vous fabriquez cette petite statuette ?» Elle répond « Je n'ose pas le dire, parce qu'il faut employer des mots très grossiers. Et ces mots très grossiers, on ne peut pas les répéter. Il faut les connaître. On les transmet, mais on ne les dit pas. Et personne ne les connaît. Et comme on ne peut pas les écrire, alors je ne les connais pas non plus. » Autour du Wat, c'est-à-dire du monastère, on trouve des petits couples enlacés. Et peu importe, c'est une loi naturelle. On veut une fécondité du sol, une fertilité du sol par l'intermédiaire de ce symbole. S'il y a des rites pour la pluie, des prières pour la pluie, il y a aussi des prières contre la pluie. Et l'ambassadeur de France me racontait l'année dernière encore que au moment du 14 juillet, donc qui est la fête nationale française et où il y a une grande réception à l'ambassade, le matin, il était d'usage de faire venir les bonzes pour réciter des prières contre la pluie. Et en général, le 14 juillet est très ensoleillé.
Après la pluie,
le beau temps.
Petite pluie à bas grand vent.
Cette saison des pluies est aussi le moment où les bonzes, au lieu d'être nomades et d'aller d'un wat, d'un monastère à l'autre, sont tenus de rester dans un seul monastère. Alors, l'explication en est parfois la suivante. Ils gênaient les paysans quand, au moment de la mousson, ils traversaient les champs et les abîmaient. Autre explication, un bouddhique ou un bouddhiste ne peut pas tuer, ne peut pas abîmer la vie d'un être vivant. Donc, au moment des pluies, où il y a énormément d'insectes, de petits animaux, quand ils marchaient à travers champs d'un wat à l'autre, ils risquaient de tuer des animaux, donc on les a empêchés de continuer à le faire. Et c'était la saison habituelle pendant laquelle les jeunes gens se faisaient ordonner bonzes. Chose que doit faire tout taille dans sa vie, une fois au moins, même le roi. Le roi était bonze, évidemment, avec la vie actuelle, on n'est plus bonze aussi longtemps, mais on l'est au moins 8 jours, et c'est toujours au moment de la saison des pluies.
La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin.
Java, la pluie est soit annoncée, soit demandée grâce à un moyen tout à fait spécial, le théâtre d'ombre, le Wayang Kulit. Le Dalang, le montreur du Wayang Kulit, est un initié et il a des pouvoirs magiques, chacun le sait. Il joue à la fois le rôle de médecin, de journaliste, de chroniqueur, mais il est aussi un petit peu sorcier. Et il a un pouvoir médiumique certain. Lorsqu'il joue Son théâtre d'ombre, son voyant coulit, il entre en transe. Et il fait passer la transe médiumique au travers de ses figurines de cuir. Et au cours des intermèdes, par exemple, il prédit qu'il y aura une année de sécheresse ou que la pluie tombera sur tel village. Ou alors, il fait prier les poupées pour que la pluie arrose certaines rizières ou ne déborde pas de certaines rizières. Il annonce des choses comme ça, mais il peut aussi bien annoncer le dernier point de rendez-vous pour le planning familial ou le prochain miracle ou l'enterrement du notable du coin. Mais la pluie ou la régularisation de l'eau qui tombera du ciel demande une attention spéciale et sont donc les poupées de cuir qui servent d'intermédiaire entre les dieux et les hommes.
À Java, on fait la pluie en imitant le bruit des gouttes d'eau qui tombent. C'est-à-dire en frottant une feuille de cocotier contre la gousse d'une noix de bétel dans un mortier. En Nouvelle-Bretagne, le faiseur de pluie enveloppe dans une feuille de bananier quelques feuilles d'une plante grimpante rayée de rouge et de vert. Il humecte le bouquet de feuilles avec de l'eau et l'enfouit dans la terre. Puis il imite le bruit de la pluie avec sa bouche.
Au printemps, les Natchez de l'Amérique du Nord se cotisaient pour acheter aux sorciers un temps favorable pour leur récolte. Quand on avait besoin de pluie, les sorciers jeûnaient et dansaient, des pipes pleines d'eau à la bouche. Les pipes étaient perforées, comme l'est la pomme d'un arrosoir, et le faiseur de pluie soufflait l'eau par les trous dans la direction du ciel où les nuages s'amoncelaient. Quand il fallait du beau temps, il montait sur le toit de sa hutte et, les bras étendus, il soufflait de toutes ses forces en faisant signe aux nuages de s'éloigner. Quelquefois, en temps de sécheresse, les Indiens Tarahumara du Mexique lancent de l'eau vers le ciel pour que Dieu puisse remplir ses réservoirs.
Vous raconter une histoire assez bizarre qui s'est passée au Sikkim en pleine saison sèche. Donc le Sikkim est un tout petit pays minuscule qui se trouve niché dans l'Himalaya. Et c'était en 1982, le grand chef Rinpoche, le grand chef du monastère de Rumtek, est mort. C'était un homme extrêmement respecté, non seulement dans la région, mais par tous les bouddhistes de l'Himalaya. Cet homme est mort et on a procédé à ses funérailles et tous les bouddhistes sont venus de très très loin, donc on a attendu 10 jours avant de procéder aux funérailles. On avait placé le corps dans un cercueil dans la cour du monastère de Rumtek et tous les bouddhistes étaient là. C'était la saison sèche et au moment où se sont élevés les hymnes sacrés, j'étais là, donc j'ai tout à fait vu ce qui s'est passé. Un immense arc-en-ciel s'est dessiné derrière le monastère de Rumtek entre deux montagnes. Et ça, c'était un phénomène tout à fait inexplicable. Il n'y avait pas du tout de traces d'humidité dans l'air.
Savoir ce qu'il advient des pluies en marche sur la terre, s'en viennent vivre sur mon toit,
parmi les signes et présages. Saint John Perse.
Ce qu'il faut dire pour l'Inde concernant la pluie, c'est que la pluie est très profondément symbole de joie. L'arrivée de la pluie, c'est l'arrivée de la vie, c'est l'arrivée de la joie. Le phénomène qui se produit en Inde et qui a toute l'importance que vous savez, c'est la mousson. Or, la mousson, c'est pas une pluie qui vient comme ça au hasard, c'est une pluie qu'on attend, on sait quand elle vient. Plus ou moins, bien sûr, mais elle est régulière, elle est cyclique. Et comme vous le savez, depuis la plus haute antiquité, en Inde, on a développé l'astronomie et l'astrologie, donc tous ces phénomènes-là sont relativement bien connus. Alors, on sait très bien que la pluie ne dépend pas du bon vouloir de telle ou telle divinité, mais qu'elle entre dans l'ordre cosmique, dans l'ordre cyclique. Alors, les rituels qui concernent la pluie sont donc des rituels qui concernent l'ordre, le dharma, l'ordre cosmique tout entier. Et en particulier, lorsqu'on parle d'ordre cosmique dans les religions de l'Inde, on fait tout de suite référence aux plus anciens textes, qui sont les textes du Veda. Et dans les rituels, les grands rituels, lorsque par exemple la mousson ne tombe pas, parce que ça arrive une fois sur cinq, la mousson ne tombe pas, ou une fois sur cinq aussi, elle tombe trop. Donc, ce n'est pas attribué à telle ou telle colère de la divinité, mais à un désordre, à dharma, un désordre du cosmos. Donc, il faut rétablir cet ordre, et donc, il faut faire des sacrifices en relation avec l'ordre cosmique. Et les spécialistes de l'ordre cosmique sont les brahmanes. Donc, on va faire des sacrifices non sanglants, bien sûr. On va construire des petits autels, des petits foyers, on va allumer le feu et on va déverser, selon l'urgence, des litres et des litres de beurre clarifié sur ces foyers, en récitant des mantras védiques qui ont en relation avec les phénomènes cosmiques et avec la pluie. Alors, bien sûr, pour faciliter le travail, on hypostase un peu le phénomène de la pluie. Donc, dans les Védas, c'est Panjaya, c'est le prince du tonnerre, de la tempête. Et dans l'hindouisme plus récent, c'est Indra. Et c'est Indra qui entre très souvent en lutte avec Krishna. Et alors là, vous avez une espèce de relation entre la pluie et le lait. Puisque Krishna, c'est, comme vous le savez, le dieu favori des vaches, des vachers et des vachères, et surtout des vachères, bien sûr, des gopis. Or, il se trouve qu'un jour, il était tellement aimé par un village à Vrindavan, que les vachers et les vachères lui rendaient hommage et oubliaient de rendre hommage au dieu cosmique Indra. Alors, là, Indra a été assez furieux et il s'est dit, à la prochaine mousson, je vais les avoir. Et il a fait tomber la pluie. Alors, les vachères sont venus se plaindre à Krishna. Krishna a pris une montagne qui était à côté, l'a soulevée et il l'a soulevée au-dessus du village, si bien que les vaches et les vachères ont été sauvées de la mousson de cette année-là. Thank you. Vous savez, pour dire l'année, on emploie le terme de pluie. Quand on dit on n'est pas né de la dernière pluie, ça veut dire on n'est pas né de la dernière année. C'est le même mot, varsha. Varsha, ça veut dire à la fois la pluie et l'année, parce que c'est le rythme essentiel du climat en Inde, c'est la pluie, c'est la mousson. Et alors, aux premières pluies de mousson, quand on voit arriver ce qu'on appelle les éléphants de la pluie, puisque les nuages ressemblent à des troupeaux d'éléphants qui arrivent de l'horizon, eh bien, tout le monde sort dehors pour se faire tremper par la première pluie.
Le sud de l'Inde, le Kerala est une terre où fleurit le chamanisme. Et les danseurs, les musiciens, les hommes médecine sont presque tous des chamans dans chaque village. Et on se livre au moment de la sécheresse, parce qu'il y a une saison sèche qui est assez dure dans le Kerala, à une sorte de rituel qu'on appelle le teyam. Alors, au moment du teyam, le chaman s'habille complètement de feuilles, se maquille pendant plusieurs heures et se fabrique un grand masque qui peut parfois mesurer plus de 6 mètres de hauteur. Et puis, il absorbe des boissons un petit peu euphorisantes et il se pare aussi de guirlandes de fleurs qui émettent une odeur euphorisante aussi. Et les tambours commencent à jouer, les chanaïs aussi, et le teyam, parce que la danse s'appelle teyam, mais le chaman s'appelle un teyam aussi, commence à danser. Il commence à danser et il entre en transe. Et dans sa transe, il devient de plus en plus loin de l'univers terrien et il marche sur le feu. Et sa marche sur le feu signifie que son corps devient insensible à la douleur, qu'il supplie à la fois les dieux, mais aussi qu'il les défie, et que les dieux doivent apporter la pluie sur la région de son village, sur la région de ses rizières, et doivent apporter la santé. La santé, dans le Kerala, est toujours synonyme de pluie, parce que la pluie lave, elle est purificatrice, et elle ensemence la terre aussi. Le masque, après la cérémonie, ainsi que les habits de feuilles, sont brûlés. Il y a cette espèce de paradoxe qu'on retrouvera dans plusieurs cultures, d'ailleurs, et même en Europe, entre le feu, le corps et le feu, et l'appel à la pluie. Ça, c'est assez intéressant.
Le cultivateur qui a dans sa famille de longues traditions ne cesse pas de labourer le sol, même s'il ne tombe pas de pluie pendant 12 années consécutives. Ceux qui ne sont pas de vrais cultivateurs dans l'âme et qui comptent sur de gros profits se laissent décourager par une seule saison de sécheresse. Le vrai croyant ne se lasse pas de répéter le saint nom de Dieu et de proclamer sa gloire, même si pendant une vie entière de dévotion, il ne réussit pas à le voir. Ramakrishna.
Il s'agit d'autres rituels qui se situent dans une autre région de l'Inde. Nous passons dans la partie nord-est de l'Inde, c'est-à-dire l'Orissa, le Bengale occidental et le Bihar. Il y a dans ces régions une forme artistique qu'on appelle la danse chao. Et ces trois formes de danse chao sont précédées de rituels de fécondité. En particulier dans le Mayurbhanj, en Orissa, et dans le Singhbhum, dans le Bihar. Ces rituels sont appelés les rituels de Jatragat et de Kalikagat, c'est-à-dire les rituels des peaux de Jatra et les rituels des peaux de Kali. Les Bhaktas ou initiés qui se sont plongés dans la rivière après des rites de purification, qui ont jeûné, transportent des pots d'eau sacrée cimentée sur leur tête avec une pâte spéciale et traversent le territoire qui sépare la rivière du temple du soleil, appelé aussi temple de Shiva, après la venue de l'hindouisme. Avec ce pot, ils entrent en transe en portant l'eau sur leur tête et relèvent des tas de femmes prostrées qui désirent un enfant, qui entrent en transe à leur tour. Puis les pots sont décimentés de la tête des Bhaktas, des initiés, et placés près du lingam, donc du symbole phallique, de Shiva dans le temple. On les cache pendant la nuit où sont dansées les danses chao, et puis on les enterre et on les déterre l'année suivante. Ceci est vrai pour le Kalika Ghat. Lorsqu'on déterre le pot de l'année suivante, qui a été scellé avec des herbes et de la terre, on découvre une certaine quantité d'eau et une certaine qualité d'eau. On emmène ce reste d'eau dans la cour du palais royal. Il y a encore des princes, par exemple, à Seraikela. Et là, on décèle le pot et on constate que l'eau est soit claire, soit trouble, soit croupie, et que le pot est à moitié vide ou qu'il contient très peu d'eau. Et le prêtre augure des bonnes conditions du village, des bonnes conditions de la tombée des pluies, de la fécondité des femmes et de la fécondité de la terre. Et cette prédiction est écoutée par plus de 5000 personnes qui viennent de tous les villages et de toutes les collines avoisinantes. Le Jatra Ghat, par contre, après la danse Chao, est récupéré par les Bhaktas, par les initiés, et chaque initié, déguisé, enduit de pâte aussi sacrée, qui a une fonction donc très particulière, est porté dans chaque maison, et chacun des occupants des maisons reçoit une goutte de cette eau sacrée qui lui consacre l'assurance de recevoir dans ses champs assez de pluie pour nourrir sa famille.
J'ai vécu plusieurs fois l'arrivée de la mousson à Bombay. Eh bien, les rues sont pleines d'eau, les voitures sont dans l'eau, on ne peut plus circuler. Les égouts sont tous bloqués, bien sûr, redéversent leur eau, etc. Enfin, c'est le déluge. Et voilà, c'est le déluge. Et je pense que l'idée de déluge est venue de la mousson. Puisque les mythes du déluge se retrouvent en Inde, bien sûr, comme dans beaucoup d'autres endroits. Mais en Inde, le déluge est toujours un déluge cyclique qui se reproduit. C'est pour ça qu'il y a plusieurs avatars du déluge. Et remonter au déluge, il faut remonter au dernier déluge, parce qu'il y en a eu avant. Et c'est la mousson. Et je me souviens une autre année où j'étais dans un village de pêcheurs au sud de Bombay, sur la côte. C'est un village du reste juif, des juifs qui sont arrivés là au 7e siècle et qui sont devenus tout à fait indiens, qui parlent marathi et tout. Eh bien, j'étais sous une cocoteraie au bord de la mer. La mousson est arrivée un petit peu, quelques jours avant qu'elle n'aurait dû vraiment arriver, donc elle était assez imprévue. Nous étions campés sous des cocotiers. Et alors les énormes palmes, vous savez, des cocotiers se sont mis à tomber sur les tentes. Toutes les tentes ont été démolies. Alors bien sûr, après la mousson, c'est tout qui renaît, et en particulier la fortune, la prospérité, Lakshmi, la femme. Et comme vous le savez, une des plus belles images qu'on trouve pratiquement sur tous les temples, à l'entrée des temples, c'est Lakshmi qui sort de son lotus et qui est arrosée par deux éléphants blancs, qui sont sortis aussi d'un déluge.
Thank you.
dans la cour où je la regarde tomber, descend à des allures très diverses. Au centre, c'est un fin rideau ou réseau discontinu. Une chute implacable mais relativement lente de gouttes, probablement assez légère. Une précipitation sempiternelle, sans vigueur. Une fraction intense du météore pur. À peu de distance des murs de droite et de gauche, tombent avec plus de bruit des gouttes plus lourdes, individuées. Ici, elles semblent de la grosseur d'un grain de blé, là d'un poids, ailleurs presque d'une bille. Sur des tringles, sur les accoudoirs de la fenêtre, la pluie court horizontalement, tandis que sur la face inférieure des mêmes obstacles, elle se suspend en berlingot convexe. Selon la surface entière d'un petit toit de zinc que le regard surplombe, elle ruisselle en nappes très minces, moirées à cause de courants très variés par les imperceptibles ondulations et bosses de la couverture. De la gouttière attenante où elle coule avec la contention d'un ruisseau creux sans grande pente, elle choit tout à coup en un filet parfaitement vertical, assez grossièrement tressé, jusqu'au sol où elle se brise et rejaillit en aiguillettes brillantes. Chacune de ces formes a une allure particulière. Il y répond un bruit particulier. Le tout vit avec intensité comme un mécanisme compliqué, aussi précis que hasardeux, comme une horlogerie dont le ressort est la pesanteur d'une masse donnée de vapeur en précipitation. La sonnerie au sol des filets verticaux, le glouglou des gouttières, les minuscules coups de gong se multiplient et résonnent à la fois en un concert sans monotonie, non sans délicatesse. Lorsque le ressort s'est détendu, certains rouages, quelque temps, continuent à fonctionner, de plus en plus ralentis, puis toute la machinerie s'arrête. Alors, si le soleil reparaît, tout s'efface bientôt. Le brillant appareil s'évapore. Il a plu. Francis Ponge.
Maintenant, si vous voulez, nous pouvons voyager un petit peu en Afrique. Et là, en Afrique, effectivement, c'est le terrain privilégié de tous les demandeurs de pluie, de tous les faiseurs de pluie. Alors, c'est Jean Rouch qui a fait plusieurs films sur les faiseurs de pluie. Et effectivement, il faudrait retourner avec lui dans la région de Niamey, où se passent très très souvent des rituels extrêmement précis, extrêmement codés, des faiseurs de pluie. Là, la pluie est demandée par tout un village, et on va trouver les faiseurs de pluie, qui sont des sorciers, mais aussi qui sont des danseurs et des percussionnistes. Ils réunissent les musiciens, et à l'extérieur d'un village, se mettent à prévoir une cérémonie. Donc, ils égorgent un poulet, ils lisent dans le sang du poulet et dans la façon dont ils se retournent si la cérémonie sera acceptée favorablement, et les tambours sont installés en cercle. Bien sûr, tout ça est su assez longtemps à l'avance, que l'oracle va décider ou non, et les villageois viennent. Il se passe une sorte de percussion assez longue, assez répétitive, toutefois avec des dessins rythmiques compliqués et une danse. Et au cours de la danse, certains des participants, les initiés et les non-initiés, sont amenés à une sorte de transe. Et au cours de cette transe, il est dit que la voix du dieu du tonnerre parle aux hommes. Et le dieu du tonnerre reproche aux hommes leur conduite, le fait de n'avoir pas assez honoré les cultes archaïques, le fait d'avoir négligé les dieux qui se sentent oubliés un petit peu dans leur région interdite. Et le manque de pluie serait donc un châtiment par rapport à cette méfiance des dieux. Ou alors l'homme en transe, donc, qui emprunte la voie du dieu, qui est chevauché par le dieu du tonnerre, le dieu de la pluie, demande le sacrifice d'un bélier ou le sacrifice d'un taureau, ou condamne l'un des membres de la communauté à l'exil pour un certain temps. La transe se passe tout doucement, les gens reviennent à la normale, et quelquefois la pluie tombe, l'orage se met à gronder, quelquefois la pluie ne tombe pas. On recommence une cérémonie jusqu'à ce que les dieux parlent de nouveau et donnent donc leur pronostic.
Là. Benya. 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 Sula. Benya. Sula. Benya. Ewa. Beba, belalo, bene, betano, mutoba, samba, lombi, dibwa.
Au Mali, il y a des phénomènes un petit peu différents. Dans la ville même de Bamako, il y a ce qu'on appelle les tambours d'eau. Les djinédong, c'est un culte de fertilité, de fécondité, et un culte qui est donc pratiquement entièrement demandeur de pluie. Une cérémonie de djinédong se passe dans la cour des maisons de Bamako. Souvent, ce sont les femmes qui sont les prêtresses et qui réunissent les hommes. Le djinédong est un tambour fait d'une énorme calebasse, coupé, rempli d'eau, placé en forme de cuvette et sur laquelle on place une autre demi-calebasse un peu plus petite, coupée également, et on frappe avec des sortes de petites balayettes. Ça imite tout à fait le bruit de la pluie. Les gens entrent en transe également et en général, la pluie tombe, accompagnée d'un bienfait ou d'une guérison. Il faut aussi des sacrifices pour que la cérémonie réussisse. Et puis aux Comores, il se passe aussi un rituel assez bizarre, pas toujours pour la faire tomber, mais pour éviter qu'elle ne tombe en ouragan, en typhon. Il s'agit d'une petite île perdue dont la principale ressource est la vanille et puis quelques épices, donc il faut tenir à cette richesse-là. Les gens procèdent à ce qu'ils appellent un tari. Un tari, c'est aussi une procession accompagnée de plusieurs tambours et de voix en dissonance. Et là, ce qui est curieux, c'est qu'on se rapproche des dissonances un petit peu excitatrices des dieux de l'Himachal Pradesh en Inde. Et ces taris sont faits donc pour demander aux dieux de ne pas envoyer de trop gros typhons et de respecter les récoltes de vanille. Parfois, aux processions de tambours s'ajoute un firimbi, qui est une sorte de flûte très très plaintive et qui pourrait être aussi un mimétisme du bruit de la pluie s'écoulant dans un torrent.
Viens donc, ma bien-aimée, ma belle, viens, car voilà l'hiver passé. C'en est fini des pluies, elles ont disparu. Sur la terre, les fleurs se montrent. La saison vient des gais refrains. Le roucoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre.
Dans la Syrie-Palestine, pays de collines et de montagnes, la végétation, la croissance de la végétation dépendait de la pluie. la pluie comme fécondateur du sol était donc perçue comme un élément fondamental de la vie et divinisé très très tôt. Alors on ne sait pas jusqu'où on peut remonter, mais d'après les textes qu'on a trouvés, ce d'Ougarit, donc découvert dans le nord de la Syrie et qui nous présente pour la première fois des textes sur la civilisation cananéenne, c'est-à-dire pré-israélite, nous montre entre autres le culte du dieu Baal qui apparaît comme le dieu du tonnerre, des nuages et donc de la pluie et de la fertilité. C'est un mythe qui, depuis la découverte par une mission française de la bibliothèque d'Ougarit en 1929, a jeté une nouvelle lumière tout à fait inédite sur le monde biblique, sur la civilisation cananéenne qui ne nous était connue que par ses adversaires et cousins, c'est-à-dire les Hébreux de la Bible. Et c'est donc une mythologie qui donne encore jusqu'à maintenant lieu à des grandes controverses, mais dont on saisit certains éléments définitifs, plus ou moins définitifs. Alors, pour revenir à la pluie et au dieu Baal, je crois qu'on peut dire qu'il était aussi le dieu de la pluie, c'est-à-dire de l'élément fécondateur du sol. C'est une légende qu'on peut résumer à peu près ainsi. Le dieu Baal, qui veut dire comme Adonis et Adonai maître, décide de se faire construire au sommet d'une montagne un palais. Seulement pour cela, il doit se battre avec le dieu Yam, qui est le dieu d'un monstre qui personnifie l'océan. On voit déjà que Baal, c'est l'esprit de l'eau, d'où ses connexions et son antagonisme avec la mer. Pour être un dieu de l'eau, il faut dompter d'abord le monstre qu'est l'océan. Il faut le contenir et le dompter. Alors il descend, il se bat avec le dieu de la mer, le terrasse, et obtient le droit de fonder son palais au sommet du mont Tsafon, qui est aujourd'hui le mont Taurus en Turquie. Une fois reconnu et homologué par le dieu suprême El comme dieu de l'esprit de l'eau, il se passe que le dieu Mont, qui est le dieu de la sécheresse, et la mort aussi, puisqu'aujourd'hui même en arabe Mont veut dire mort, prend contact avec Baal et il lui dit « J'ai soif, je veux que tu descendes dans mes entrailles, dans ma gorge, pour étancher ma soif. » Et le dieu Baal accepte avec une rapidité étonnante d'aller mourir. Et donc il descend dans les entrailles du dieu Mout et s'engloutit complètement. Il meurt. Alors sur ce, la sœur de Baal, qui s'appelle Anat, qui veut dire les sources, s'émeut, le dieu elle aussi s'émeut de la disparition de Baal, et tout le monde a peur pour la subsistance des hommes. Les dieux se lamentent, ils se disent que vont devenir les hommes maintenant que le garant de la végétation des céréales a disparu. Alors Anat se rend chez le dieu Mout, le tue, le vanne, le pile et ensuite le disperse, comme s'il s'agissait d'un grain. Une fois que le dieu Mout est mort, Anat reprend Baal et le remonte vers le mont Tsafon, c'est-à-dire le mont Taurus au sommet, et le réinstalle, donc sur son trône. C'est une représentation mythique des éléments naturels et notamment de la pluie. C'est-à-dire Baal, c'est l'eau, la terre a soif, c'est donc Mot en été, la terre a soif. Pour la désaltérer, Baal accepte de descendre, comme descend la pluie. Il rentre dans les entrailles du sol et ce sont les sources, donc Anat, sa sœur, quand la terre engloutit l'eau, ce sont les sources qui la retiennent, qui retiennent cette eau. Donc Anat, la sœur de Baal. Et une fois qu'elle tue Mot, on identifie ça au grain qui meurt. Vous savez, la fameuse métaphore de l'évangile, si le grain ne meurt. Elle le vanne, elle le pile et le disperse. Et après, elle remonte du sol, elle remonte vers le sommet Baal. C'est-à-dire, c'est probablement la représentation de l'évaporation de l'eau qui monte du sol vers les sommets des montagnes en nuages. Et cette notion de l'évaporation de l'eau était connue à l'époque puisqu'on la retrouve dans Isaïe. Dans le verset, je crois, 55-10, on dit que les nuages viennent de l'eau de mer qui s'évapore et qui monte. C'est donc une représentation poétique, mythologique, probablement donnée lieu à des rites pour expliquer le phénomène de la pluie. On voit déjà son importance comme élément essentiel de la vie.
Oui. Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses ans reste incalculable. C'est lui qui retient les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Ou bien les nuages la déversent, la font ruisseler sur la foule humaine. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles. Il accomplit des œuvres grandioses qui nous dépassent. Quand il dit à la neige, tombe sur la terre, aux averses, pleuvez dru, alors il suspend l'activité des hommes pour que chacun reconnaisse là son œuvre. La Bible, livre de Job.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans la Bible, mettant depuis Salomon jusqu'à probablement jusqu'au retour d'exil, dans la Bible même, il y a un affrontement permanent entre Baal et entre Yahvé. C'est-à-dire les Hébreux oscillent entre le culte de Baal et le culte de Yahvé. Il y a même eu des rois comme Salomon ou même plus Achab qui en ont fait de Baal le culte national imposé. Et jusqu'à la fameuse confrontation sur le mont Carmel entre Élie et les prêtres de Baal, où Yahvé finit par jouer le jeu de la religion cananéenne, puisqu'on dit, on demande aux prêtres de Baal de prier Baal de donner la pluie, et aux prêtres israélites de prier pour que Yahvé donne la pluie. Et c'est Yahvé qui triomphe, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans cette même région aujourd'hui, c'est une région donc le mont Carmel qui se situe en Israël, mais il y a une population arabe aussi bien chrétienne que musulmane, que druze, et la population juive aussi, vénère toujours ce même endroit jusqu'à nos jours. N'est-ce pas? Les trois religions sont d'accord que dans cette région, Baal et donc les dieux païens ont été vaincus une fois pour toutes pour le monothéisme. Musulmans, chrétiens et juifs sont d'accord sur ce point et vénèrent le même site, donc au mont Carmel.
Le désir ressemble aux nuées qui s'élèvent d'abord de la terre vers le ciel. Et après avoir formé les nuages, c'est le ciel qui arrose la terre. Le Zohar.
Yahvé est appelé le vainqueur de Yam, c'est-à-dire de l'océan qu'a vaincu Baal. Il est appelé aussi chevaucheur des nuées. C'est un des noms de Baal. Le mont du temple est identifié au mont Tsafon, c'est-à-dire le mont Taurus. Et la voix de Baal qui était le tonnerre, Yahvé aussi, sa voix c'est le tonnerre dans les psaumes. Et ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que les psaumes qui sont attribués à Salomon ont en fait, selon les biblistes, été rédigés probablement au 1er ou 2e siècle avant notre ère. Ça montre quand même la permanence de ces symboles cananéens qui remontent dans les textes d'Ougarit au 15e siècle. Ça veut dire que jusqu'au 2e siècle, après le triomphe de la constitution du judaïsme sous l'époque perse au 5e siècle, la culture hellénistique et les différents messianismes juifs, il restait ces symboles cananéens, probablement parce qu'ils étaient très populaires, les poètes et les écrivains les ont utilisés. Sur un plan plus spiritualisé, la pluie est un des attributs de Yahvé avec lequel il punit son peuple ou avec lequel il le gratifie lorsqu'il se comporte, disons, conformément à ses injonctions. Il est même dit plusieurs fois dans la Bible où Yahvé menace, si vous vous comportez comme ça, je vous envoie la pluie, et vous aurez nourriture, céréales, et votre bétail va croître. Si vous ne comportez pas fidèlement, j'arrête la pluie et c'est la sécheresse et la famine. Et on retrouve dans certains écrits de la Bible où le Messie est identifié à la pluie. Et dans le christianisme aussi. C'est-à-dire que le Messie est considéré comme une pluie bienfaisante, miraculeuse, éminemment fertile, qui devrait garantir par sa chute prodigue un nouveau démarrage du monde. Dans l'islam, il y a les mêmes motifs. C'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu qui enchaîne les vents et c'est lui qui, en les déchaînant, lève les nuages qui apporteront la pluie. Et la pluie est aussi un des instruments par lesquels Dieu récompense et bénit l'humanité croyante. Mais gare à cette humanité si elle ne se comporte pas fidèlement, il asséchera les sols et le ciel ne donnera plus une seule goutte d'eau et ce sera l'enfer. On voit que la pluie reste dans ces régions un des instruments même par lesquels Dieu menace ou gratifie l'humanité.
nous faisons descendre du ciel l'eau bienfaisante. Par elle, nous faisons germer les plantes des jardins et les récoltes des moissons. Et les palmiers élevés dont les branches retombent avec des dattes en grappes suspendues. Elles servent de nourriture aux hommes. Au moyen de l'eau du ciel, nous rendons la vie à une contrée morte. C'est ainsi que s'opérera la résurrection. Le Coran.
Tous les morts sont devenus ivres, car il pleut à verse. De ces vieilles pluies d'antan, humides, rancunières, errances. Rachid Boujedra.
Dans le Maghreb, dans le monde musulman d'aujourd'hui, dans l'islam, il y a une prière dite, il y a des prières rogatoires, qu'on fait spécialement pour la pluie. Et donc, on se rassemble sur la place du village, ou sur une plaine, ou sur un champ, à plusieurs centaines ou milliers de personnes, ça dépend des régions, et on fait une prière spéciale, demandant à Dieu d'envoyer la pluie. Et donc, la pluie, jusqu'à maintenant, n'est pas perçue comme résultant de phénomènes météorologiques, mais résultant, procédant directement d'une volonté divine expresse, et non pas du mouvement des nuages ou de la climatologie. Par exemple, depuis 3 ou 4 ans, il y a des sécheresses en Algérie et au Maroc, et on voit souvent retransmises par la télévision des prières rogatoires où on voit des milliers de fidèles priant avec ferveur, attendant du ciel que la pluie tombe.
Au Maroc, les confréries Gnawa et Aïssawa, grâce à des tambours, à des crotales, à des danses, à des transes aussi, et avec un sacrifice au début, appellent également la fécondité et la pluie. Mais toujours aussi la guérison. On trouve la guérison de la terre liée à la guérison de l'homme. C'est très intéressant comme phénomène. Parfois on s'en écarte, parfois on s'en rapproche. Enfin, ça dépend un petit peu des cultures. Si nous nous dirigeons vers la Tunisie, nous avons des cérémonies qui sont un petit peu semblables, mais qui sont processionnaires. Ces danses processionnaires sont appelées les danses des gougous. Et elles se placent à Djerba ou à Zarzis, qui sont des zones sèches. Les gougous dansent avec de gros tambours portés sur le ventre, des danses parfois qui sont assez acrobatiques, en criant et en appelant la pluie et la fécondité. Et en général, leurs tentatives sont couronnées de succès.
À la fin de l'année 1893, la Sicile fut dans la détresse à la suite d'une sécheresse de 6 mois. Tout se fanait, tout se mourait. La disette se faisait sentir et le peuple était dans l'angoisse. Vainement, on avait usé de tous les moyens classiques pour faire pleuvoir. Procession, messe, cierge béni, rien n'y faisait. À la longue, les paysans commencèrent à perdre patience. Ils exilèrent presque tous leurs saints. À Palerme, on fourra Saint-Joseph dans un jardin, afin qu'il se rendît compte à son propre dame de la situation, et l'on jura de l'y laisser se griller au soleil ardent jusqu'à ce qu'il fît pleuvoir. D'autres saints furent tournés le nez au mur comme des enfants en pénitence. D'autres encore furent dépouillés de leurs beaux vêtements et bannis bien loin de la paroisse, menacés, accablés de grossières injures, condamnés au plongeon dans l'abreuvoir. À Caltanissetta, on arracha à l'archange Saint-Michel ses ailes dorées et on les remplaça par des ailes en carton. On lui enleva son manteau de pourpre et à la place, on lui ceignit les reins d'un torchon. À Licata, pire encore fut le sort de San Angelo, patron du pays. On le laissa nu comme un ver. Il fut outragé, enchaîné, menacé de noyade ou de pendaison. « La pluie ou la potence !» hurlait la foule courroucée en lui montrant le poing.
L'Europe n'est pas du tout exempte de ces cérémonies. Par exemple, en Grèce, tout près de nous, il y a une cérémonie qui s'appelle Anasthénaria, qui s'appelle la marche sur le feu. La marche sur le feu, c'est une réminiscence du cri des icônes. Le cri des icônes aurait été proféré au XIIe siècle dans un petit village de Grèce où les icônes de Sainte Catherine et de Saint Constantin étaient enfermées. La foudre serait tombée sur l'église et aurait mis le feu à l'église. Les villageois tout autour auraient entendu au milieu des flammes des cris. Et un jeune homme ne pouvant résister à ses cris se serait précipité dans les flammes et aurait retiré les icônes qui criaient. Et à ce moment-là, la pluie serait tombée sur l'église et aurait éteint le feu et protégé les icônes. En souvenir de cette cérémonie, les gens, depuis, tous les ans, à la fête de Sainte-Catherine, marchent sur le feu et ne sont pas brûlés. Ils appellent la pluie, ils appellent la fécondité et en même temps, ce rituel a pour but de ressouder la communauté. Et en France, enfin, il y a quelque chose d'assez particulier que nous faisons tous les ans, depuis 10 ans, nous-mêmes à la Maison des Cultures du Monde et autrefois à la Maison de la Culture de Rennes, au moment du Festival des Arts Traditionnels, et là, cette année, pour l'année de l'Inde, puisque nous avons besoin de beau temps, nous avons besoin de soleil, nous allons voir les Sœurs Clarisse. Nous allons dans un couvent et nous offrons à ces religieuses plusieurs douzaines de frais, en leur demandant qu'il ne pleuve pas pendant un certain temps, que le beau temps se maintienne, que les nuages retiennent la pluie. Elles nous demandent l'heure très très précisément, elles acceptent les œufs et elles promettent de prier. Et chaque fois, depuis 10 ans, ponctuellement, tout se passe bien, il ne tombe pas une goutte de pluie. Par exemple, en juin dernier, pour l'ouverture de l'année de l'Inde, nous avions donné les temps du Mela à la Tour Eiffel et au Trocadéro. Et au moment où les Indiens retournaient dans leurs autocars et au moment où nous rechargions les camions avec les accessoires de scène et les costumes, les premières pluies ont commencé à tomber à 2h du matin.
Et maintenant, assis devant la petite fenêtre de ma cellule, je regarde les nuages printaniers. Dans la cour du cloître, le ciel est bas, il pleut doucement, la terre sent bon. Les citronniers sont en fleurs. Au loin, un coucou chante. Toutes les feuilles rient, car Dieu s'est fait pluie et pleut sur le monde. Quelle douceur! Seigneur, quelle félicité! Comme se confondent la pluie et la terre, l'odeur du fumier et celle du citronnier, avec le cœur de l'homme. En vérité, l'homme est de terre, et c'est pourquoi, comme elle, il se réjouit tant de cette tranquille et caressante pluie de printemps. Kazantzaki.
La matinée des autres. Les rituels de la pluie, une émission de Jacqueline Kellen. Avec Jacques Soustelle de l'École pratique des hautes études, Françoise Grund de la Maison des Cultures du Monde, Jacqueline De Fels, professeure à l'INALCO, Guy Delery, écrivain, Slimane Zeguidour, journaliste, historien. Avec les voix de Francine Olivier et Frédéric Cantrel. Réalisation, Mireille Cros, Daniel Bizien, Marie-Noëlle Sépieter.
laver au cœur de l'homme les plus beaux dits de l'homme, les plus belles sentences, les plus belles séquences, les phrases les mieux faites, les pages les mieux nées. Laver, laver la literie du songe et la litière du savoir. Au cœur de l'homme sans refus, au cœur de l'homme sans dégoût, laver, laver, ô pluie, les plus beaux dons de l'homme. Au cœur des hommes les mieux doués pour les grandes œuvres de raison. Saint John Perse.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er octobre 1985.